programme va maintenant se poursuivre en français.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute du programme en français du week-end de Radio Prague, présenté depuis nos studios de la capitale tchèque, avec, comme toutes les semaines, aujourd'hui d'abord de la culture, puis l'émission consacrée à la langue tchèque avec le professeur Guillaume Narguet, et puis enfin de la littérature. Et on commence évidemment, comme toutes les semaines, avec la culture. Jusqu'au 25 septembre, le deuxième étage, de la bibliothèque municipale de Prague propose une exposition intitulée « La fin de l'avant-garde » avec un point d'interrogation des accords de Munich au putsch communiste. Et aujourd'hui, Anna Kubista vous propose un entretien avec l'une des commissaires de cette exposition. Elle parle français et elle s'appelle Anna Pravdova.
Culture sans frontières.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique culturelle, une rubrique culturelle où j'accueille aujourd'hui Anna Pravdova, historienne de l'art. Bonjour.
Bonjour.
Anna Pravdova, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises pour différentes expositions dont vous avez été la commissaire. Vous êtes la commissaire d'une exposition qui se déroule à l'heure actuelle jusqu'au 25 septembre à la bibliothèque municipale de Prague. Et c'est une exposition qui s'intitule « La fin de l'avant-garde, point d'interrogation ». Le point d'interrogation est important, des accords de Munich au putsch communiste de 1948. Voilà, pour préciser un petit peu les dates. Alors pourquoi justement ce point d'interrogation à ce titre, « La fin de l'avant-garde » ?
Par rapport au titre, surtout par rapport au point d'interrogation, je voudrais dire que donc je suis une des commissaires de l'exposition. La commissaire principale, c'est Hanna Rousova. Et elle a choisi, je pense qu'on était en tout cinq, donc quatre autres commissaires pour travailler avec elle sur cette exposition. Et je dis ça parce que donc son travail en général est intéressant. J'ai beaucoup d'estime pour ça parce que elle pose des questions, elle ouvre des problèmes. Et elle ne veut pas apporter des questions toutes faites, des réponses toutes faites, etc. Justement, elle veut s'interroger. Et c'était ce projet aussi. C'est pourquoi, donc, quand on lui a proposé de faire cette exposition, on a proposé à elle. Et elle ne voulait pas toute seule donc travailler sur cette période qu'elle connaît parfaitement. Mais elle voulait ouvrir un débat avec d'autres historiens d'art. Donc, c'est pour ça qu'elle a choisi une équipe. C'est pour ça aussi le point d'interrogation dans le titre, parce que ce projet, c'est ouvrir de nouvelles questions, poser de nouveaux problèmes. Bien sûr, on peut dire il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais le but de l'exposition, c'était pas justement de dire c'était comme ça pendant la guerre, c'était montrer quelles questions ça peut susciter encore, cette période, etc.
Alors, il faut préciser justement que c'est une génération d'artistes jeunes, très jeunes en fait, et qui créent justement en grande partie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quand même une création qui est évidemment très influencée par le contexte historique. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques figures un petit peu phares de cette génération ?
Donc c'est une remarque importante que c'était des artistes très jeunes, pour la plupart donc à l'époque pas très connus. C'est difficile de présenter quelques figures phares. Je vais peut-être présenter quelques groupes ou cercles d'artistes importants. Il y a bien sûr beaucoup d'artistes du groupe 42, qui était un groupe donc qui est né, qui porte le titre de l'année où il a vu sa naissance. C'est surtout donc Kamil Hoták, František Hudeček, faisait partie de ce groupe Jiří Kolář, mais à l'époque en tant que poète, Jan Smetana et d'autres artistes. Il y a bien sûr le groupe Pra, que c'est beaucoup présenté dans la partie de Lenka Bičovská. C'était de jeunes artistes qui faisaient beaucoup d'expérimentations, des sortes de performances. On voit dans la dernière partie donc des photographies de ce qu'on appelle rádění. Je ne sais pas exactement comment l'exprimer en français, mais c'était des sortes de performances ou de scènes dans les appartements que les jeunes artistes faisaient et un photographe les photographiait. Ce qui est intéressant, c'est que donc l'architecte de cette exposition est aussi un artiste, Zbigniew Balatran. il a réactualisé cet événement qui s'est fait pendant la guerre dans les vidéos qu'on voit projetées au-dessus des photos d'époque. On voit donc la vidéo qui essaye reconstruire, mais pas fidèlement à l'historique, mais plutôt réinterpréter cet événement par un artiste contemporain. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc il y a ces artistes-là. Après, il y avait un groupe qui aussi a vu le jour pendant la guerre, qui s'appelle Sedm v říjnu, 7 au mois d'octobre, parmi lesquels il y avait donc Václav Hejna, dont on voit beaucoup de toiles ici. Il y avait un historien d'art, Pavel Kropáček, dont on voit plusieurs portraits dans l'exposition, parce que c'était un important théoricien qui était dans la résistance, qui était arrêté et qui était déporté. Donc il y a un hommage aussi, une sorte d'hommage qui lui est rendu ici dans cette exposition.
Alors comme on disait justement que ce sont des œuvres qui sont un peu indissociables du contexte historique, quels sont un peu les thèmes justement qui intéressent ces artistes? Je suppose qu'évidemment une grande place est accordée par exemple aux conditions de vie, par exemple, enfin une forme de représentation de la, peut-être de la grisaille, de la vie sous le protectorat.
Je pense que la grisaille se voit surtout dans les couleurs choisies. On voit qu'en général, l'exposition est très sombre. Dans les thèmes, on voit ça plutôt pas sous la forme concrète, mais par exemple beaucoup le thème d'aliénation, alors sous différentes formes, soit la solitude, mais aussi l'amour, toute cette salle par exemple où on se trouve, il y a une partie dédiée à l'amour et différentes formes d'expression de l'amour pendant la guerre, mais on voit qu'il y a beaucoup de tristesse, de solitude,
de mélancolie.
Ouais. Une autre façon d'exprimer cette étrange position dans le monde que les artistes ressentaient à cette époque, c'est la théâtralisation par exemple du monde. On voit ça dans la partie qui a été choisie par Wojciech Lahoda, qui a toute une série de scènes de théâtre, mais pareil, très solitaire, mélancolique aussi. C'est plutôt cette atmosphère qui est présente dans les œuvres. Il y a aussi donc l'expression de la brutalité, bien sûr. Il y a les photographies qui expriment ça très bien. Ce qui est intéressant aussi dans la partie culturelle et historique, c'est aussi une esthétisation de cette réalité très brutale. Il y a des photographies, donc, avant que les Juifs soient déportés ici, on les a rassemblés, on a confisqué tous leurs biens. Il y avait un centre de triage où les autres Juifs travaillaient et triaient les chaussures d'un côté, les livres d'un côté, les objets. Et il y avait quelqu'un qui travaillait dans ce centre de triage, qui a photographié ces stocks de choses, mais de manière très artistique et très géométrique, une manière d'esthétiser l'horreur qui est très étonnante pour nous, mais qu'on peut comprendre peut-être à l'époque. C'était sans doute quelqu'un qui était très concerné par ça, qui était peut-être même déporté peu de temps après lui-même. Donc c'était peut-être cette manière de transcender quelque chose ou de surmonter cette réalité terrible par la rendre organisée, géométrique, esthétique. Et il y avait même quelqu'un qui a ensuite pris ces photos faites par ce photographe et qui en a fait des collages qui sont aussi des collages d'avant-garde presque au niveau formel. Et c'est très étonnant de faire ça avec ce genre de photographie. Donc il y avait différentes manières de surmonter cette période qui devait être très très dure à vivre.
Chaque commissaire a eu le loisir de choisir ce que cette avant-garde, en tout cas cette jeune génération, représentait pour lui. Vous vous êtes intéressé à un événement un peu particulier, c'est-à-dire en juin 1946, la galerie La Boétie à Paris a organisé une exposition sur cet art tchécoslovaque, ce jeune art tchécoslovaque déjà à l'époque. Et vous avez reconstitué en fait cette exposition. On peut peut-être éventuellement aller faire un tour et puis en parler. Donc on se trouve là dans cette première partie de l'exposition sur l'avant-garde ou sur la fin de l'avant-garde, qui est consacrée à l'art tchécoslovaque, l'exposition sur l'art tchécoslovaque à Paris, à la galerie La Boétie. Alors qu'est-ce que c'était que cette exposition justement qu'il a organisée?
Je voudrais juste dire au début, beaucoup de gens pensent que c'est la première partie, mais en fait il n'y a aucune hiérarchie dans cette exposition, donc chacun est libre de circuler comme on veut, et ça se veut plutôt comme une sorte d'intermède entre les deux parties de l'exposition qui sont donc d'un côté et de l'autre de cette reconstruction. Et donc c'était une exposition qui était organisée par le ministère de l'Information à l'époque où travaillait Adolf Hofmeister en tant que chef de section culturelle. Et il se trouve qu'à l'époque à Paris, donc le peintre Joseph Schima était peu avant nommé attaché culturel. Et eux ensemble, ils ont donc voulu présenter l'art tchèque à Paris, ce qui était très ambitieux. Ça montre à quel point la politique culturelle tchécoslovaque juste après la guerre était ambitieuse. Il voulait présenter l'art tchécoslovaque à la fois donc depuis 1918 jusqu'à depuis la création de la République et puis ce qui s'est fait pendant la guerre. Au début, ça devait être un grand projet ensemble et puis finalement, ils ont eu des problèmes à trouver un grand espace, donc ils ont séparé en deux. Il y a eu cette exposition en mois de juin 1946 à la Galerie La Boétie et à la fin de l'année 1946, il y a eu l'autre exposition à l'Orangerie à Paris. Donc nous, on a voulu montrer en fait ce que Shima Eluard a choisi parmi cette jeune art tchécoslovaque donc qui s'est fait pendant la guerre. Donc c'est un peu aussi de confronter le regard actuel des historiens d'art actuel avec ce qu'on a choisi à l'époque de cette même période. Et donc
et justement, alors en quoi justement vos choix actuels de jeune commissaire en 2011 diffèrent ou finalement rejoignent ce que eux ont fait à l'époque Joseph Shima et Paul Éluard?
Eux, ils ont voulu choisir exprès les artistes qui n'étaient pas connus avant la guerre. Donc, en fait, ils allaient dans les ateliers, on leur recommandait des artistes, etc. Et ils ont choisi ce qu'ils voyaient, ce qu'ils trouvaient intéressant, sans se dire celui-là est connu, celui-là n'est pas connu, sans avoir cet appui sur déjà des artistes renommés. Donc, il est intéressant de voir. Il y a quelques artistes dont on ne sait plus rien aujourd'hui. Il y avait, par exemple, un certain Studeni qui figure au catalogue et on ne sait pas du tout qui c'est, etc. Mais pour la majorité, c'est les artistes qu'on a retenus pour l'histoire aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup des peintres du groupe 42. Ils ont pris les peintres du groupe Sedum Vžinu au mois d'octobre. De ce groupe-là aussi, quelques artistes. Et puis, quelques artistes solitaires comme Zdeněk Sklenář, par exemple. Mm-hmm. Et puis, plusieurs sculpteurs, mais il faut dire que leur choix était aussi un petit peu politique. Il ne faut pas oublier cet aspect que c'était une exposition organisée par le ministère de l'Information, donc il fallait qu'il y ait aussi des peintres tchèques et des peintres slovaques, qu'il y ait des peintres de Prague, mais aussi des peintres de Brno, qu'il y a un peu tous les groupes soient un petit peu représentés, etc. Donc
c'était une exposition aussi qui devait être diplomatique vis-à-vis de, par exemple, voilà, de Brno ou des Slovaques.
Bien évidemment, c'était un événement politique et même il y a eu quelques critiques du choix et Shima a dû expliquer dans une revue d'époque pourquoi, comment ils ont procédé dans leur choix. Et justement, il explique que le choix vraiment était prendre des artistes inconnus, donc aller voir dans les ateliers, etc., et choisir eux-mêmes. Et j'ai l'impression que c'est Éluard qui avait le dernier mot, donc il choisissait ce que lui il trouvait intéressant. Il faut pas oublier aussi qu'Éluard, à l'époque, était déjà très actif au Parti communiste, déjà intéressé par le réalisme socialiste. Et je pense que ça se reflète légèrement dans le choix, c'est-à-dire ils ont pris les choses intéressantes, mais peut-être pas les plus audacieuses au niveau formel, etc. C'est une interprétation que je fais aujourd'hui, mais il y a sans doute tout ça à jouer aussi dans le choix de l'exposition.
Et est-ce que vous savez quelles ont été un peu les réactions en France à cette exposition? Je suppose que vous avez pu avoir accès à des archives de journaux, de revues d'art, par exemple.
Alors, j'ai regardé les revues d'époque, bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup plus de réactions ici qu'en France. Je pense que c'est une exposition qui était très importante, surtout pour les artistes tchèques, parce que ça leur a permis aussi d'aller à Paris, au vernissage. Ils ont été tous invités. Quant aux réactions à Paris, je pense que l'exposition intéressait le public, mais dans les critiques, on retrouve souvent cet étonnement que c'est très sombre, cette constatation que c'est très sombre, alors que les gens savaient que c'était des choses faites pendant la guerre et bien sûr, les choses se sont faites pendant la guerre aussi en France. Donc, même en connaissance de cause, les gens étaient quand même étonnés que c'est aussi sombre que ça. Donc, c'est sans doute lié à quelque chose qui est propre à notre mélancolie, peut-être au-delà du contexte historique, je ne sais pas. Mais en tout cas, souvent, presque toutes les critiques ont relevé ce point, que c'était vraiment très sombre.
Alors, je rappelle à Alain Pravdova que cette exposition qui s'appelle « La fin de l'avant-garde », point d'interrogation, des accords de Munich en 1938 au putsch communiste de 1948, ça se déroule dans la galerie qui est installée à la bibliothèque municipale, mais c'est organisé par la galerie de la ville de Prague. Voilà, et c'est jusqu'au
25 septembre.
Merci beaucoup.
Pas de quoi.
C'était la commissaire de l'exposition La fin de l'avant-garde des accords de Munich au putsch communiste. Elle s'appelait Anna Pravdova et elle était au micro d'Anna Kubishta. On poursuit le programme du week-end en français de Radio Prague. Et cette fois-ci, c'est avec une de vos émissions préférées, celle consacrée à la langue tchèque, avec l'éminent professeur Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue, Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem, milovníkům češtiny Rádia Praha.
Pour cette fois, nous allons nous intéresser à un mot quelque peu curieux de la langue tchèque, le mot
flamovat.
Un mot qui signifie faire la fête, faire la noce, faire la bringue. Il s'agit toutefois de faire la fête dans l'exagération, et notamment avec une consommation exagérée de boissons alcoolisées et de passer la nuit à s'amuser. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ce mot
flamovat
tire son origine du mot
vlam,
c'est-à-dire un flamand, l'habitant de la Flandre en Belgique. Nous allons tout de suite découvrir pourquoi et comment. Vous le savez, Jacques Brel entretenait des rapports houleux, une relation d'amour-haine avec la Flandre et avec les Flamands. Bruxellois, flamand, francisé, Brel était un Belge comme il n'en reste peut-être plus beaucoup aujourd'hui. N'empêche que dans sa chanson, Les Flamandes notamment, Jacques Brel propose une image plutôt sombre des filles de Flandre, certes bien portantes, mais dont le goût modéré pour l'amusement et plus particulièrement pour la danse est dicté par le clergé et l'envie, le désir du bien-être matériel. Pour autant, les Flamands, et les hommes comme les femmes, n'en restent pas moins des gens qui savent boire, et même bien boire, du bon et en grande quantité. Il suffit de se rendre dans les bistrots de Flandre pour s'en faire une petite idée et pour en avoir la confirmation. Veillez alors simplement à éviter de passer vos commandes en français. S'ils savent bien boire, les Flamands ont également un sens prononcé de la fête. Et cela nous amène tout doucement à l'origine de ce fameux mot tchèque. Avant cela, en français, on pourrait penser que ce terme possède un rapport avec le mot « flamme » et donc éventuellement avec le verbe « flamber » dans le sens notamment de dépenser de l'argent immodérément ou encore d'arroser d'alcool pour ensuite brûler, passer à la flamme. Alors effectivement, on flambe et dépense souvent de l'argent immodérément avec la nuit qui avance et l'alcool qui se consomme. Et ce comportement nous amène aussi parfois, par exemple, à nous brûler les ailes comme les papillons qui viennent se brûler à la flamme. Mais en vérité, il ne s'agit là que d'une fausse interprétation. En fait, la véritable version sur l'étymologie de
flamovat
est tout à fait différente. Une version que l'on pourrait même commencer avec l'expression qui introduit les contes de fées « Il était une fois et il était une fois des flamands ». Et il ne s'agit pas là d'une façon de nous moquer du non moins fameux « une fois belge ». Il était donc une fois des flamands en Bohême et ce dans la première moitié du XVIIe siècle, puisque tout aurait commencé lors de la guerre de 30 ans. Durant celle-ci, Albrecht de Wallenstein, noble tchèque commandant en chef des armées impériales, a enrôlé un corps d'environ 20 000 mercenaires composés essentiellement de flamands.
Flamovat.
À l'époque, ceux-ci étaient désignés en allemand comme les
Flamländer.
Et ces mercenaires, dont certains d'entre eux opéraient également sur le territoire de l'actuelle République tchèque, se comportaient comme la grande majorité de tous les soldats à toutes les époques. Ils aimaient donc faire la fête, c'est-à-dire boire tout leur saoul, et flirter avec les femmes que les armées médiévales transportaient avec elles. Une pratique, semble-t-il, assez courante, qui permettait notamment de limiter le nombre de viols des populations locales et de conserver, on dira les choses comme ça, un certain niveau culturel. Ces femmes flamandes, au service des soldats, les Tchèques les appelaient
« Flundre ».
Un mot, selon nos sources, pas spécialement injurieux, même s'il s'agissait bien de putains. Ainsi donc pour la réputation des mercenaires flamands et de leurs femmes prostituées lors de la guerre de 30 ans. Mais pour être tout à fait précis, précisons encore aussi que d'autres dictionnaires ajoutent également qu'il ne s'agissait pas seulement des mercenaires. Les marchands flamands étaient en effet aussi réputés pour leur talent commercial que pour leur faculté à organiser et supporter d'interminables beuveries. Et c'est aussi ainsi que s'achève ce tchèque du bout de la langue. Nous reviendrons sur le sujet dans notre prochaine émission. Il sera encore question des flamands, mais aussi de leurs voisins hollandais et de Danois, autant de peuples réputés grands buveurs de bière notamment, comme les Tchèques d'ailleurs. D'ici là, portez-vous du mieux possible. Portez le soleil en vous. Et surtout, faites la fête, la noce, la bringue, si le cœur vous en dit. Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Merci à Guillaume Narguet pour ce nouveau chapitre de son cours de la langue tchèque. On passe et on termine avec la littérature, les rencontres littéraires de Václav Richter, avec aujourd'hui les archives de la Bibliothèque nationale de Prague qui cachent, vous le savez, de nombreux trésors. Et Václav va vous parler maintenant d'un document historique qui jette une lumière inattendue sur toute une époque et notamment sur l'histoire de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire sur les jésuites de Prague.
Rencontre littéraire. Le pamphlet est une œuvre littéraire à part, œuvre qui a souvent joué un rôle important dans l'histoire et dont se servaient aussi bien les puissants de ce monde que les révolutionnaires et les anarchistes. Un de ces pamphlets, un texte dont la force corrosive ne s'est pas tout à fait évanouie encore 4 siècles après sa création, se trouve dans la Bibliothèque nationale de Prague, abrité dans l'ancien collège des jésuites, le Clementinum. Il s'agit du pamphlet contre les jésuites intitulé « Monita privata societatis Jesu », instruction secrète de la Compagnie de Jésus. Alena Richterova, du département des manuscrits et des incunables de la Bibliothèque nationale, présente ce volume qui commence comme un livre d'histoire sérieux.
Il s'agit d'un manuscrit volumineux et sur la majorité des pages de ce volume, il y a des textes qui étaient courants dans les manuscrits de l'ordre des jésuites. Il y a l'histoire détaillée du collège Saint-Clément depuis le début, c'est-à-dire depuis l'arrivée à Prague du père Petrus Canisius dans la moitié du XVIe siècle. Ce catholique ardent d'origine hollandaise est venu à Prague pour sonder le terrain. Il voulait savoir si les jésuites pourraient s'établir à Prague et poursuivre leurs activités et y fonder leur collège.
Abyste působili svoji misijní činnost a abyste založili svoji kolej.
Les jésuites réussissent à fonder leur collège, le Clementinum, qui est, après quelques hésitations, relativement bien reçu par la population. L'histoire du collège est retracée dans le manuscrit de façon détaillée. L'auteur évoque, entre autres, la période du début du XVIIe siècle, lorsque la noblesse protestante tchèque se révolte contre les Habsbourg. La noblesse révoltée prend le pouvoir à Prague et décide de chasser la Compagnie de Jésus. Les jésuites sont donc vraiment obligés de quitter rapidement la ville. Leur exil sera cependant de courte durée. De 1620, après la défaite de la noblesse protestante tchèque au cours de la bataille de la Montagne Blanche, un des événements cruciaux du début de la guerre de 30 ans, la Compagnie de Jésus revient dans la capitale tchèque. C'est un retour secret parce que les jésuites se rendent compte qu'ils n'ont pas la sympathie des Pragois. Ils reviennent pendant la nuit et habillés comme de simples bourgeois car ils n'osent même pas endosser leurs habits religieux. Ils sont agréablement surpris par l'état de leur bibliothèque, restée presque intacte malgré les désordres de la guerre. Tous ces événements évoqués par le manuscrit donnent une image relativement positive de la Compagnie de Jésus et de ses activités à Prague. Ce n'est que dans la dernière partie du manuscrit, comme le constate Alena Richterova, que l'auteur change complètement de ton et que son texte dégénère en pamphlet.
Ce qui est intéressant dans ce volume, c'est que sur ces dernières pages, il y a un texte tout à fait différent, mais dont l'écriture est identique avec celle du début du manuscrit, et qui est donc écrit par la main de la même personne et à la même époque que les textes précédents. C'est un pamphlet contre les jésuites intitulé « Les instructions secrètes, Monita Secreta ou Monita Privata ». En réalité, c'est une mystification insidieuse formulée comme des instructions confidentielles authentiques du général de l'ordre. Il conseille aux jésuites comment se comporter, les incite à ourdir des intrigues les plus diverses, à commettre des supercheries et des vols.
Les jésuites sont exhortés à soutirer de l'argent à des veuves, à commettre des divers crimes et à se livrer à la débauche. Selon Alena Richterova, il s'agit d'un texte tout à fait absurde et pourtant une partie du public l'a pris au sérieux. Le texte du pamphlet a été imprimé à Cracovie en 1614. L'auteur et l'imprimeur sont restés anonymes et l'impression est antidatée. Sur le frontispice de l'incunable figure la date de 1612. À partir de ce moment-là, le texte sera publié plusieurs fois, le plus souvent au XVIIIe et au XIXe siècle. Dès les premières parutions de ce texte, son authenticité est remise en cause, non seulement par les milieux catholiques, mais aussi par les protestants, qui estiment qu'il s'agit d'un faux et constatent que, s'ils veulent rester objectifs, ils ne peuvent pas prendre au sérieux de telles inepties. Le livre ne manque pas non plus de défenseurs. Parmi les plus ardents partisans de l'authenticité du texte, il y a le chasseur de jésuites, Gaspard Chopin, dit Siopius, un érudit et pamphlétaire catholique allemand. Et Alena Richterova de constater que le débat sur le pamphlet se poursuivra encore au XIXe siècle.
Au XIXe siècle, des analyses très détaillées ont démontré qu'il s'agissait d'inepties mensongères. Un grand travail dans ce sens a été accompli par l'historien Bernhard Dour, jésuite allemand qui a vécu jusqu'en 1930. Il a publié plusieurs livres, dont le plus intéressant est sorti aussi chez nous. Il s'appelle « Les fables sur les jésuites ». Bernhard Dour prouve par une analyse très détaillée que le texte a été rédigé par le polonais Hieronymus Zaor, un jésuite qui a été exclu de l'ordre pour des délits dont la nature n'est pas connue et a réglé ses comptes avec la compagnie de Jésus de façon très insidieuse et perfide. Cette vengeance lui était sans doute très douce parce que les adversaires des jésuites ont abondamment exploité ses arguments et les exploitent encore aujourd'hui.
Aujourd'hui encore, selon Alena Richterova, on attribue aux jésuites le célèbre proverbe « la fin justifie les moyens », c'est-à-dire que les bonnes fins justifient les mauvais moyens, ce qui est également faux. Nous ne pouvons que spéculer sur le chemin que le manuscrit a fait au cours des siècles. Il est sûr que le livre a été rédigé dans un collège de jésuites, probablement au Clémentinum de Prague. La reliure et le caractère de l'écriture en constituent les preuves. Au cours des années 1730, le manuscrit passe en possession des soldats saxons qui le rapportent en Saxe. Le manuscrit est ensuite trouvé par un prêtre tchèque chez un bouquiniste de Meissen. Le prêtre dépose le livre dans la bibliothèque de Dux où il est trouvé et acheté par le savant jésuite Bohuslav Balbin qui le fera revenir au Clémentinum. Bohuslav Balbin complète certains passages historiques et y ajoute ses notes. Le prix historique du manuscrit est donc encore rehaussé par les annotations de la plume de cet érudit qui est une des plus grandes figures de la pensée tchèque de la période baroque.
Thank you.
c'est la fin du programme en français de Radio Prague. Retrouvez-nous demain pour le dimanche musical. Et surtout, écrivez-nous français@radio.cz, français@radio.cz. Au micro, Alexis Rosenzweig. Au revoir. Nasredano.
Radio Praga continúa.